Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Florent Bujon.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Aller au charbon, avoir du pain sur la planche ou encore mettre la main à la pâte. La langue sait faire preuve d'imagination lorsqu'il s'agit de désigner le travail et la loi plus encore lorsqu'il s'agit de l'encadrer. Si plus de 80% des salariés français détiennent toujours un précieux CDI, les contrats temporaires se multiplient. Aujourd'hui, une embauche sur 5 s'effectue en CDD d'usage, un contrat ultra flexible qui ne prévoit ni période de carence ni prime de précarité. Un recours abusif que le législateur peine à réguler. Vous écoutez France Culture et cette émission, elle aussi, est à durée déterminée. Nous allons parler de l'explosion des contrats temporaires et de ses conséquences en compagnie de Clémence Berson, économiste, chercheuse à Sciences Po, et de Sophie Robin-Olivier, juriste, professeur à Paris 1. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Clémence Berson et Sophie Robin-Olivier.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va retracer ensemble, dans un premier temps, peut-être les grandes étapes de cette flexibilisation du marché du travail. D'abord, ce que l'on peut dire peut-être, Clémence Berson, c'est que ce que l'on constate depuis les années 2000 environ, c'est une forte augmentation des recrutements en contrats temporaires.
Alors, déjà, une forte augmentation de la quantité de contrats temporaires dans le total de l'emploi. Donc, comme vous avez dit, on a aujourd'hui environ 12% des salariés, c'est le négatif des contrats en CDI.
Donc 12% en CDD et 88% en CDI.
Alors, il y a quelques autres types de contrats entre deux.
Hein, les intérimaires.
Les intérimaires, les apprentis, les contrats aidés. Mais c'est un chiffre qui était à 6% au début des années 80. Donc il y a eu une forte augmentation dans les années 80 et 90 pour se stabiliser depuis les années 2000 entre 10 et 12% selon les années. De CDD. Les embauches en CDD ont-elles beaucoup augmenté depuis 2008 ? Elles sont passées d'environ plus de 75% à plus de 85% récemment. Donc il y a une augmentation de la quantité de nouveaux contrats.
Et donc d'abord, il y a une première étape que vous avez citée qui est en 1980, plus exactement en 1979. Je me tourne vers vous, Sophie Robin-Olivier. 1979, c'est le moment où la loi crée le CDD, c'est-à-dire encadre les contrats temporaires.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le principe en droit français, c'est le libéralisme économique qui domine. C'est-à-dire au bon sens du terme, on est libre de conclure les contrats qu'on souhaite. Sauf à respecter les règles d'ordre public. Et au moment où on encadre les contrats de travail, on encadre, là, en 79, les contrats à durée déterminée pour essayer de faire en sorte que, de trouver un équilibre entre la durée limitée du contrat et la protection qui est due aux travailleurs dans le cadre de ces contrats.
Comment est-ce que cette idée d'un travail, d'un droit du travail qui serait trop compliqué, trop contraignant et du coup de la nécessité peut-être de créer des contrats plus souples émerge dans les années 80 ? Dans quel contexte, Sophie Robin-Olivier ?
Dans les années 80, il y a une demande, un premier moment de demande de flexibilité qui est liée à une période de crise économique. Hein. C'est souvent à ces moments-là que la flexibilité est demandée comme un moyen d'ajustement, d'adaptation facile, plus facile des entreprises à la conjoncture économique. Donc ça justifie des contrats qui peuvent être des contrats d'ajustement dans lesquels on ne prend pas trop de risques, l'entreprise ne prend pas trop de risques et elle n'a pas donc à subir, je prends le point de vue de l'entreprise, les conséquences qui seraient celles d'une difficulté à se séparer des travailleurs parce que la loi prévoit des conditions de rupture, une procédure et une indemnisation de la rupture qui peuvent être considérées comme contraignantes.
Donc on justifie la création du CDD ou la création du statut d'intérimaire, par la conjoncture économique et par le fait que ça devrait inciter les entreprises à davantage embaucher, Clémence Berson.
Oui, tout à fait. En tout cas, dans ces années-là, c'était l'idée qui a été promue derrière, qui est effectivement permettre aux entreprises, quand elles ont choc positif de demande, de pouvoir embaucher temporairement un plus grand nombre de salariés pour pouvoir faire face à cette hausse de l'activité.
Et alors 40 ans plus tard, aujourd'hui, donc on a 70% des embauches qui concernent des CDD de moins d'un mois. Si on a une explosion du nombre de ces contrats temporaires, c'est aussi parce qu'ils sont de plus en plus courts, Clémence Berson ?
Ils sont effectivement de plus en plus courts. On a actuellement donc la médiane, donc c'est-à-dire 50% des contrats en contrat en CDD qui se terminent ont duré de moins de 5 jours. Donc c'est effectivement très court, c'est la moitié de ce qu'il y avait 20 ans avant.
Et alors c'est intéressant de parler de cette question des contrats courts, parce que ce que l'on se demande, Sophie Robin-Olivier, c'est si jamais il y a une explosion du nombre de ces contrats ou s'il y a une augmentation importante du nombre de personnes qui seraient concernées par ces contrats courts, Clémence Berson.
Alors on a toujours le même stock de contrats dans l'économie. On a beaucoup plus d'embauches, c'est donc qu'il y a une rotation plus forte. Donc il y a plus de gens qui enchaînent les contrats similaires. Et les données...
Mais ce sont les mêmes qui enchaînent des contrats courts, ou est-ce qu'il y a plus de personnes qui enchaînent ces contrats courts ?
Alors les données montrent que effectivement des personnes qui sont en contrat temporaire ont une probabilité moins grande d'être en CDI plusieurs années après. Donc il y a une étude de l'INSEE qui montre que 7 ans après, il y en a moins de la moitié qui ont un CDI, alors que les personnes qui sont en CDI restent essentiellement en CDI, c'est entre 70 et 80% qui sont toujours en CDI plusieurs années après. Donc c'est quand même des gens qui ont du mal à évoluer vers un contrat plus permanent.
Sophie Robin-Olivier.
Oui, parce que c'était une des logiques dans ces contrats courts, enfin qu'on peut appeler courts pour généraliser, c'est que ça pouvait servir de tremplin. C'était l'idée que ces contrats pouvaient être un moyen d'accès. D'ailleurs, une partie de la politique de l'emploi est orientée avec cette idée que on met en place des contrats courts pour aider au retour à l'emploi de certaines personnes qui ensuite ont vocation à accéder à des contrats plus permanents. Et en réalité, il semble que donc les chiffres que vous évoquiez montrent que c'est pas évident de faire ce passage. Donc l'idée de tremplin, qui, au fond, qui permet d'accepter plus facilement ces contrats temporaires, cette idée de tremplin, elle est un peu remise en cause par les faits.
Peut-être que cette idée de tremplin était davantage vraie dans les années 80. On passait plus facilement d'un CDD à un CDI à l'époque qu'aujourd'hui, Clémence Berson.
Ah, c'est compliqué. On a moins de chiffres de ce moment-là. Donc, on a plus des choses des années plus récentes, des années 2000.
On a du mal à savoir et à voir l'évolution sur ce point.
Globalement, les études, en tout cas que je connais, sur le sujet, ont tendance à montrer qu'effectivement, ça sert moyennement de tremplin, comme on aurait pu l'espérer quand ça a été mis en place.
Et alors, il y a un sujet qui est venu en particulier sur la table, c'est celui des CDDU, donc ces CDD d'usage. Les employeurs abuseraient particulièrement de ce contrat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, Sophie Robin-Olivier ? Quelle est la spécificité de ce contrat ?
Oui, ce sont des contrats à durée déterminée qui concernent certains secteurs d'activité dans lesquels on dit il est d'usage de recourir à des contrats temporaires. Donc, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, par exemple, à la radio, par exemple, donc dans la production audiovisuelle plus généralement. Enfin, il y a toute une série. Donc, là, il y a une liste de domaines qui est fixée dans le code du travail et qui va dans ces domaines-là. On a pour tradition, en quelque sorte, d'utiliser des contrats à durée déterminée, surtout quand on dit d'usage.
Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement avantageux pour les employeurs ?
C'est avantageux parce que ça permet de recourir à ces contrats de façon, sans avoir à justifier qu'il y ait une activité accrue ou qu'il y ait un autre motif. En droit français, le recours au contrat à durée déterminée est très encadré, je le disais tout à l'heure, mais parce qu'il faut un motif particulier, parce qu'il y a une durée limitée, parce que...
Il faut par exemple remplacer quelqu'un qui serait absent.
Voilà. Et donc dans les secteurs où il y a des possibilités de CDD d'usage, il n'y a pas nécessité de prouver un motif, de faire état d'un motif spécifique. Faire appel à ces contrats.
Moins de nécessité de justification et aussi un certain nombre d'économies qui sont réalisées puisqu'il n'y a pas de prime de précarité ni de période de carence. C'est-à-dire qu'on peut enchaîner des personnes, des contrats en CDDU.
Oui. Oui, mais alors sur l'économie, c'est pas évident ça, cette question de l'économie, parce que dans le droit français, comme d'ailleurs dans le droit européen, c'est une règle qui vient du droit de l'Union européenne, il y a un principe d'égalité de traitement des salariés en CDD et en CDI, et donc normalement la rémunération doit pas être différente, et puis généralement les avantages qui sont liés à l'emploi doivent être les mêmes. Donc la question de l'économie, et je dirais même le formalisme du contrat, fait que c'est au contraire plus contraignant et plus coûteux en quelque sorte en ressources pour l'entreprise de faire appel à des contrats à durée déterminée. Donc en principe, c'est plutôt plus lourd.
Clémence Berson,
c'est
sur
plus
ce
lourd,
point.
Sauf ouais. Effectivement pour les CDD d'usage où on n'est même pas obligé de spécifier la durée quand on met en place le contrat. En fait, on retire tous les garde-fous finalement qui font la sécurité du CDD disparaissent au moment où on instaure un CDD d'usage.
Je vais voir mon manager, je lui dis, il en est où pour mon CDI? Il me dit, ça approche, donc au début il fallait 60 jours de travail ouvré, et après il pouvait lancer le dossier. Et puis la semaine qui suivait, mon fils est tombé malade. Il est resté quelques temps à l'hôpital, et là, il m'a mis 4 jours d'arrêt. J'informe mon chef, ok, repose-toi, reste à côté de ton fils, je prie pour lui, etc. Un deuxième SMS me disant, surtout garde bien tes papiers pour ton CDI. Le lundi qui suivait, j'ai décidé de reprendre le travail. Et donc là, je lui repose la question. Justement, fallait que je te voie. On a un autre critère, et t'es pas dedans. Et là, c'est une courbe. C'est celle pour décrocher le CDI. Une courbe qui rejoint un peu tout, en fait. La progression, la performance, la volonté, je pense aussi, elle doit être dedans. Et aussi, les absences. Je lui dis, mais sont justifiées mes absences. Oui, mais ça fait quand même 4 jours, ça aurait été 2, ça aurait été possible, mais là, ça fait 4 jours. J'insiste sur le fait qu'ils sont justifiés. Je leur ai même clairement dit, refaites un gros contrat en CDD, je reprouverai que j'aurai pas d'absence au final. Je veux voir ce que je peux faire. Voilà, maintenant, c'est la phrase que je reçois tout le temps. Je veux voir ce que je peux faire.
Voilà le témoignage d'Adrien, intérimaire chez Amazon, extrait d'un épisode des Pieds sur Terre, produit par Sonia Kronlund. Le CDI demeure, pour certains, pour beaucoup peut-être, un rêve encore inaccessible, Clémence Berson.
Alors, il y a forcément des salariés qui sont contents d'être en CDD, qui sont contents d'être en intérim. Attention, il ne faut pas totalement généraliser, mais ce qu'on voit avec l'enquête emploi, on peut notamment connaître la satisfaction des travailleurs sur le fait d'être en contrat temporaire. Et ce qui en ressort, c'est que globalement, il y a quand même une forte part des gens qui sont en CDD qui aimeraient être en CDI. Ce qui est bien compréhensible à partir du moment où, quand on cherche un logement, quand on cherche même à acheter une voiture, une maison, on a besoin d'avoir un contrat en CDI. Et quand on dit à son banquier qu'on est en CDD, la réponse, c'est souvent, ça va pas être possible.
Et puis, vous l'avez dit, pour les années 80, on justifiait à ce moment-là le CDD et le statut d'intérimaire par la conjoncture économique difficile. Qu'est-ce qu'il en est depuis? Est-ce qu'on peut continuer à établir un lien entre flexibilisation du marché du travail et conjoncture économique, Clémence Berson?
Alors, au niveau de l'intérim, on voit quand même une corrélation assez forte entre la conjoncture économique et le recours à l'intérim. Au niveau de l'usage des CDD, c'est moins évident, ne serait-ce que parce que la part des CDD reste stable dans le temps, alors qu'on a reconnu ces 20 dernières années des fortes variations dans la santé économique.
Est-ce qu'il n'y a pas eu récemment davantage d'embauches en CDI avec une certaine reprise économique ces dernières années?
Le taux d'entrée en CDI a un petit peu augmenté, mais ça reste relativement stable sur les dernières années. C'est effectivement légèrement en augmentation, mais pas de quoi inverser la tendance par rapport aux embauches en CDD.
On a donc un marché du travail à deux vitesses, et sachant que les contrats temporaires sont plus nombreux dans certaines catégories de population, Sophie Robin-Olivier.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle parfois la segmentation du marché du travail, et avec une préoccupation pour le caractère injuste de cette situation, c'est-à-dire l'inégalité qui est souvent relevée entre les uns qui sont protégés, voire surprotégés, ceux qui sont en CDI, donc qui auraient une situation relativement confortable, parce que toutes les garanties du droit du travail leur profitent. Et puis les autres, qui sont les précaires, ce deuxième segment, donc, qui eux, au fond, n'arrivent pas à profiter, ne peuvent pas, en raison de la brièveté de leur contrat, profiter des garanties qu'assure le droit du travail. Donc c'est une segmentation très critiquée, avec un argument qui est un peu parfois dangereux sur cette critique.
C'est-à-dire?
Parce que tout dépend vers quoi on tend quand on fait cette critique. C'est-à-dire qu'on peut dire cette inégalité doit être rectifiée vers le haut, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut limiter les contrats précaires et faire en sorte que la plus grande partie des salariés se retrouvent dans des contrats plus stables. Donc ça suppose des mesures peut-être, enfin une réflexion dans un certain sens. L'autre manière de penser, c'est là où je dis c'est peut-être un peu glissant ou dangereux, c'est de dire il faut ramener tout le monde sur un même niveau d'égalité, mais plutôt vers le bas. C'est-à-dire faire créer, c'était la théorie du contrat de travail unique, créer un contrat de travail qui peut-être est plus flexible pour tout le monde, plus souple, qui va être peut-être moins stable pour l'ensemble des salariés, mais qui fera cesser cette dualité ou cette segmentation du marché du travail.
Et à l'heure actuelle, qui sont ces précaires, Clémence Berson? Ce sont plus souvent des travailleurs moins qualifiés?
Alors, moins qualifiés, souvent des jeunes, des femmes, et des gens qui ont des salaires moins importants globalement que le reste de la population. Et pour rebondir sur la segmentation du marché du travail, effectivement, économiquement, on a tendance à expliquer le fait que les gens en contrat temporaire aient du mal à passer en contrat permanent par la différence de protection entre les deux contrats, exactement ce que vous soulignez. Et après, effectivement, dans tant de crises, il paraît compliqué de diminuer les droits des gens en CDI, mais il y a besoin d'un peu plus de flexibilité pour qu'il y ait plus d'échanges entre les deux types de contrats. Mmh. Donc, c'était effectivement l'idée du contrat unique, mais ça peut être fait par d'autres moyens. Donc moi j'avais écrit un papier avec Nicolas Ferrari sur des incitations financières qui pouvaient aider à réduire effectivement cette segmentation, à favoriser les transitions d'un type de contrat à un autre. Et un point intéressant était ce qui se passe aux États-Unis avec l'experience rating. Donc l'experience rating, c'est alors en partie ce qui a été discuté récemment en France, mais les cotisations à l'assurance chômage dépendent de l'historique de rupture de contrat de travail ouvrant des droits à l'assurance chômage de l'entreprise.
Donc ça veut dire qu'on paye davantage de cotisations si on emploie davantage de personnes en contrat temporaire.
Et qui vont au chômage, qui sont indemnisés par l'assurance chômage après coup.
Alors,
en fait, ça permet à l'entreprise d'internaliser le coût social de ces licenciements.
Alors ça, c'est effectivement une piste qui peut être intéressante à envisager. On va voir les différentes solutions proposées par le gouvernement. On va revenir sur ce système de bonus-malus. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, il faut expliquer et revenir un petit peu en arrière, expliquer que la réforme du Code du travail de 2017 a encore réduit la protection des CDD. Sophie Robin-Olivier, il faut s'arrêter sur cette loi Pénicaud.
Oui, alors ça peut être vu comme effectivement un moyen de ramener, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fond, la situation de ceux qui sont en principe bien protégés par notre droit du travail dans un système qui donne un peu plus de souplesse au moment de la rupture, qui facilite la rupture, en tout cas qui permet de, c'est pas un très joli terme, mais de la sécuriser, c'est-à-dire de savoir ce que ça va coûter pour l'entreprise et du coup d'éviter que ces craintes sur l'impossibilité de rupture entraînent un recours plus grand au contrat à durée déterminée. Donc ça, c'est le...
Oui, c'est là, vous parlez du plafonnement
et là,
des indemnités prud'homales.
Ce qu'on a appelé le barème Macron, c'est-à-dire le barème de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire, c'est pas le licenciement justifié qui est en cause là. Hein. C'est un licenciement justifié. Il y a une indemnisation qui est prévue par le Code du travail, qui va dépendre du temps passé dans l'entreprise. Donc, c'est pas sans conséquence sur, c'est-à-dire, plus le contrat est court, moins on risque de payer d'indemnisation, même s'il y a une justification du licenciement. Mais quand le licenciement est injustifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause, pour une raison quelconque, mais pas forcément une bonne raison selon notre droit du travail, le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur. Alors là, en principe, donc le salarié a un droit d'aller demander une indemnisation pour cette rupture abusive.
Sauf qu'avant, elle n'était pas plafonnée. Désormais,
elle est
plafonnée à entre 1 et 20 mois de salaire brut en fonction de l'ancienneté.
C'est ça.
Et alors, il va falloir voir quel problème est-ce que ça pose. Mais en tout cas, l'objectif de cette mesure, c'était d'inciter les entreprises à embaucher Clémence Berson, avec cette idée que comme on pourra licencier plus facilement, ou du moins anticiper ce que ça coûtera de licencier quelqu'un, eh bien, ça permettra aux entreprises d'avoir moins peur, entre guillemets, d'embaucher.
C'est effectivement l'idée. D'un point de vue de théorie économique, on a tendance à considérer que les agents anticipent les coûts de leurs actions, y compris ce que ça va coûter dans le futur. Donc on considère que l'entreprise, quand elle embauche, elle anticipe également le coût lié à la rupture du contrat. D'où l'intérêt de dire si le coût est trop important à la fin, elle va pas embaucher. Donc ça découle directement de ce genre d'analyse.
Et ce qu'on a constaté, c'est une chute du nombre d'affaires au prud'homme. Ça a été l'une des conséquences de ce plafonnement, Sophie Robin-Olivier.
Oui, c'est ce qu'on a vu. Enfin, il y a des études qui ont montré cet effet-là. Et en même temps, c'est un petit peu compliqué parce que le fait qu'il y a plusieurs façons d'éviter le licenciement aujourd'hui. Donc voilà, et des séparations qui peuvent se faire d'autres manières et qui font que... Donc il y a un ensemble de facteurs qui peuvent jouer sur le fait qu'il y a moins de contestation au prud'homme, effectivement. Mais enfin, certaines enquêtes ont montré que ça avait effectivement le fait d'avoir une indemnité qui est très réduite en perspective, décourage. Alors, c'est dit, il faut relativiser parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation du tout de stabilité en ce qui concerne ces barèmes, qui sont très contestés, notamment contestés parce qu'ils seraient contraires ou ils seraient non conformes au droit international du travail.
Contestés par qui ?
Alors, c'est contesté par les salariés et leurs avocats, qui considèrent qu'il y a une violation du droit international, et les juridictions du travail, les conseils de prud'hommes, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, considèrent qu'effectivement, puisque cette loi est contraire au droit international du travail, elle doit être laissée de côté, et on continue d'appliquer l'ancien système.
Donc on peut considérer, Clémence Berson, que depuis la réforme du Code du travail, non seulement les CDD, mais aussi les CDI sont moins protégés.
C'est compliqué de tirer. Il y a eu des réformes qui sont allées dans les deux sens. Donc c'est pas forcément évident de savoir si globalement il y a eu une augmentation de la protection ou une diminution de la protection.
Ça a été compensé par d'autres mesures ? Ces mesures qui fragilisent le CDI dont on vient de parler.
Alors les mesures qui fragilisent le CDI, à considérer qu'elles soient vraiment totalement fragilisées, parce qu'en vrai, les indemnités ne concernent qu'une infime partie, puisque c'est quand le licenciement est abusif, donc c'est exactement ce que vous disiez, ça concerne très peu de contrats et de fins de contrat in fine, et ceux qui ont été jugés comme étant effectivement pas légaux. Donc c'est après si ça rassure l'entrepreneur, peut-être qu'il emploie plus, mais c'est pas le lien est pas forcément si facile à faire entre les deux, surtout qu'il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises en même temps, notamment une réforme des prud'hommes, des juridictions de droit du travail, qui ont été faites en essayant de faciliter les accords entre les parties. Etc. Donc c'est toujours un peu difficile dans des périodes où il y a beaucoup de mesures qui sont pas forcément très grosses mais qui s'accumulent les unes avec les autres de réussir à identifier l'effet de chacune.
Sophie Robin-Olivier.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que c'est parfois les contrats à durée déterminée qui peuvent être des contrats relativement longs. Sont plus protecteurs, parce que si vous regardez le régime juridique de ces contrats, la rupture ne se fait pas facilement dans la période du contrat. L'employeur ne peut rompre que pour faute grave du salarié. Ça veut dire que le contrat va être maintenu. Donc c'est quand même aussi une garantie. Alors, évidemment, quand le contrat est très très court, quelques jours, c'est une garantie de peu. Mais si c'est un contrat de 18 ou de 24 mois, ça assure une stabilité sur cette période-là, qui est peut-être, comparativement à certaines facilités de rupture du CDI, pas négligeable.
Et je pense que les salariés précaires, les chômeurs ne sont pas représentés par les syndicats, tout simplement parce qu'ils ne sont pas cotisants, parce qu'ils ne font pas partie de ces syndicats. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de dire qu'il y a des situations qui sont des situations dont je ne dis pas qu'elles soient confortables pour les salariés, mais dont ils s'accommodent en contrepartie d'un style de vie qui peut permettre de travailler de façon moins de jours par mois que des gens en CDI. Et bien cette situation, elle n'est pas acceptable et elle coûte extrêmement cher un système dont je rappelle qu'il est à l'origine un système assurantiel. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui payent pour d'autres travailleurs, les entreprises qui payent pour la protection sociale des salariés.
Philippe Thiby, professeur de finance à l'École Polytechnique. Ce qu'il souligne ici, c'est que les coûts liés à l'assurance chômage sont également partagés par l'ensemble des entreprises, qu'elles aient ou non fortement recours aux contrats courts ou aux contrats temporaires, Clémence Berson. Ça, c'est important d'expliquer.
C'est effectivement un système qui, jusqu'à présent, a été assurantiel. Donc, on cotise tous pour s'assurer contre les périodes moins fastes où on peut passer au chômage et où du coup on aura quand même un revenu même si on n'a plus d'emploi. Donc c'est effectivement payé par l'ensemble et des salariés et des employeurs puisqu'il y avait jusqu'à récemment des cotisations des deux côtés. Maintenant il n'y a plus que des cotisations du côté employeur.
Mais ça veut dire que les entreprises vertueuses, entre guillemets, qui emploient davantage en CDI payent pour celles qui emploient davantage en CDD et en contrat intérimaire, Sophie Robin-Olivier ?
J'imagine que c'est ce qu'on peut dire. Enfin, c'est le système de l'assurance qui est comme ça. On se garantit d'un risque et on espère quand même que le risque ne se réalisera pas. Ensuite, si vous dites paye, c'est-à-dire le coût pour l'entreprise, je pense que Je ne sais pas ce que diraient les économistes, mais il semble que, dans une certaine mesure, le maintien de salariés avec une flexibilité plutôt interne qu'externe n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'entreprise, en termes de productivité, notamment voilà, le fait d'avoir une main-d'œuvre qui reste dans l'entreprise et qui est peut-être capable de s'adapter au changement de l'entreprise. C'est pas un coût, c'est bénéfique pour l'entreprise. Donc, faut remettre, je pense, les choses dans un contexte un petit peu plus large.
On peut entendre parfois, on entend certains dire que les contrats courts peuvent résulter d'un choix de la part des salariés, qu'il y a un certain nombre d'avantages sur ce point. On commençait à en parler tout à l'heure avec Clémence Berson. Quels sont les avantages que les gens peuvent en retirer? Qu'est-ce qu'on peut dire de la volonté d'être dans ce type de contrat?
Alors, de la volonté, on ne peut pas en dire grand-chose, hein. C'est une question de motivation personnelle. Je pense que c'est particulièrement vrai pour certains types de travailleurs, en particulier les jeunes, qui pensent pouvoir se stabiliser après s'ils en ont envie. Parce qu'il faut voir quand même que l'intérim peut parfois être plus rémunérateur. Alors, on n'a pas forcément de congé, mais après, c'est possiblement pas... Enfin, les gens qui choisissent ce genre d'options ne veulent pas forcément prendre autant de congés que s'ils étaient en CDI. Il y a plus de changements dans les emplois occupés, etc. Peut y avoir effectivement des avantages à avoir ce type de contrat. Le problème, c'est que dans la durée, ils auront plus de mal à passer sur un contrat permanent. Et à terme, ce qu'on voit dans les données, c'est que il y a une certaine pénalité salariale au fait de jamais avoir de contrat permanent. C'est-à-dire que même s'ils sont payés à peu près, au vu des caractéristiques de chaque personne, ils sont payés à peu près la même chose qu'ils sont en CDD ou en CDI. À long terme, l'expérience accumulée pèse sur le salaire des gens en CDI, alors qu'il est moins important pour les gens qui changent de métier, enfin de contrat, très souvent.
Alors ça, c'est un aspect effectivement très important. Et si on veut un chiffre, il y a eu une étude qui a été réalisée par l'OCDE et qui dit qu'en France, seuls 22% des personnes qui ne sont pas en CDI déclarent ne pas souhaiter de contrat permanent. Donc on a quand même une écrasante majorité qui regrette le caractère temporaire du contrat. Il faut peut-être aller regarder du côté de nos voisins européens. Qu'est-ce que leur exemple nous apprend? Est-ce que en Allemagne, en Grande-Bretagne, par exemple, on constate aussi une augmentation très importante du nombre de contrats temporaires, Clémence Berson?
Alors, les comparaisons ne sont pas très aisées. Chaque pays a des contrats très différents qui ont une flexibilité sur des aspects différents. Bien sûr, on a chacun... un contrat plus facile d'accès, avec des durées plus courtes. Mais on a effectivement les emplois en Grande-Bretagne zéro heure, qui effectivement...
Alors rappelez-nous en quoi ça consiste, ce contrat.
Alors c'est un contrat qui n'a pas vraiment de cadre juridique aussi contraint que ce qu'il peut avoir ailleurs, et effectivement où on n'a pas de durée, notamment, ni... De motifs pour l'emploi, et donc du coup beaucoup moins de protection pour le salarié.
La protection est plus ou moins importante, mais on a eu un mouvement général en Europe de flexibilisation, Sophie Robin-Olivier.
Oui, c'est ce qu'on dit à peu près partout, et c'est pas juste européen. Il y a eu un livre assez récent américain, piloté par deux chercheurs américains, qui dit la même chose, qui voit la même... Alors ça se mesure, c'est vrai que c'est difficile à comparer dans les chiffres, parce que les types de contrats sont différents, donc la qualification des contrats est différente, mais on voit le phénomène lui-même du raccourcissement de la durée de la relation de travail, en fait, on la voit, qui prend des formes différentes, pour des raisons différentes, des activités, certaines activités qui utilisent principalement des contrats courts. Il y a des tas de motivations, mais le phénomène, oui, européen, sans aucun doute, et au-delà de l'Europe, ça, c'est vrai. Mais avec des petites évolutions, là, tout à l'heure, on disait sur la France, il n'y a pas de grosses modifications. Là, j'ai vu que récemment, il y avait des chiffres allemands qui disaient qu'on voit un regain de l'emploi plus stable en Allemagne par rapport aux contrats courts. Donc il y a eu un petit mouvement. Alors à quoi il est dû, je sais pas, mais il y a quand même des petites variations.
Certainement pas à la conjoncture économique, du coup, puisqu'en Allemagne on a quand même une période de ralentissement économique depuis quelques mois.
Ils ont instauré un salaire minimum qui fait qu'il devient moins intéressant de faire des mini-jobs et des midi-jobs, donc qui sont leurs contrats très courts. Et donc, on a remarqué un pic au moment du passage, l'année du passage d'instauration du salaire minimum, de transformation de contrats donc très très précaires en contrats permanents.
Oui, sûrement, Olivier.
Il y a chacun un peu ses spécificités. Le phénomène global existe. Enfin, le phénomène existe à peu près partout, mais chacun ses spécificités. Tout à l'heure, on disait le contrat zéro heure, c'est vraiment le grand contrat, enfin, dont on parle au Royaume-Uni, parce que c'est vraiment le contrat qui pose problème. Il a explosé. Il est vraiment le contrat le plus précaire. C'est l'épouvantail. Le temps partiel, avec aucune garantie de temps de travail, donc de rémunération. Bon, donc ça, c'est le. Mais c'est vraiment lié à un système dans lequel le contrat à durée déterminée est très peu encadré, très peu réglementé. Donc c'est sa particularité. Et puis les mini-jobs allemands, bah voilà, c'est une autre particularité avec une moindre protection sociale, donc un coût moindre pour l'employeur. Chacun a un peu ses spécificités dans un contexte général qui est assez proche.
Clémence Berson.
Et là, on parle de contrat, mais il faut voir qu'il y a aussi toute une part de l'économie qui se développe dans des relations de travail hors contrat. En France, on a les auto-entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de salariés déguisés ou, alors, je trancherai pas totalement dans ce sens-là, mais c'est quand même des contrats un peu particuliers avec un seul donneur d'ordre, à des gens qui, du coup, sont des auto-entrepreneurs, mais on sont pas très loin de la relation de salariat. Donc, sans avoir les cotisations sociales et la protection qui est associé à toutes les cotisations sociales que nous avons.
Sophie Romain-Olivier. Oui,
je suis d'accord, mais je dirais pas que c'est hors contrat, parce que juridiquement c'est un contrat, mais c'est pas un contrat de travail. Donc voilà. Effectivement, toutes les garanties du droit du travail sont mises de côté.
Et on va voir que le gouvernement a essayé de s'attaquer à ces fameux CDDU, avec quels résultats, on en parle dans un instant.
As you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career.
Working Class Hero de Marianne Faithfull sur France Culture, entendez-vous l'écho. L'économiste Clémence Berson et la juriste Sophie Robin-Olivier sont toujours avec nous pour parler de la flexibilisation du marché du travail. Alors le gouvernement a affiché une volonté de légiférer contre les contrats temporaires ou contre leurs abus. On écoute le Premier ministre Édouard Philippe.
Nous nous fixons plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mettre fin au recours abusif aux contrats courts. Nous avons donné aux entreprises plus de souplesse, plus de sécurité, grâce à la réforme du droit du travail, et c'était nécessaire. La contrepartie, et vous savez combien j'apprécie ce terme, c'est une responsabilité accrue dans le recours aux contrats courts qui empêche les salariés de construire leur vie avec un minimum de sérénité. C'est pourquoi dans les 5 à 10 secteurs d'activité qui utilisent le plus souvent ces contrats et qui génèrent de la précarité, nous instaurerons un principe de bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage. Et dans les autres secteurs, Nous prendrons une mesure transversale pour décourager le recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Voilà, le Premier ministre Édouard Philippe, c'était en juillet dernier. D'abord, en quoi consiste ce système de bonus-malus qui devrait entrer en vigueur, je crois, le 1er janvier 2020, Clémence Berson?
Alors, il est assez proche du système américain dont on a parlé tout à l'heure. L'idée est effectivement d'augmenter les cotisations à l'assurance chômage des personnes dont l'historique de rupture, enfin pas des personnes, plutôt des entreprises dont l'historique de rupture ouvrant des droits à l'assurance chômage est plus important. Il a, dans le cas français, été limité à certains secteurs et n'a pas été étendu à l'ensemble de l'économie. Donc les incitations sont différentes de ce qui peut se trouver aux États-Unis, par exemple.
Mais il y a deux gros secteurs qui utilisent beaucoup de CDD qui échappent à la mesure, c'est le bâtiment et la santé dans le cadre de cette mesure. Ça, c'est ce qu'on constate. Alors, justement, vous avez fait paraître, Clémence Berson, une tribune dans Libération où vous estimez que cette mesure est celle qui l'accompagne, qui est ce projet de taxe de 10 euros par CDD d'usage. Ces deux mesures sont, selon vous, plus symboliques qu'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, c'est pas tout à fait symbolique quand même, mais d'un point de vue d'économiste, si on travaille beaucoup sur les incitations en tant qu'économiste. Si on va avoir des incitations qui ont un impact fort sur l'économie, il faut que l'ensemble des agents y soient soumis. Et une incitation à moins recourir aux contrats ouvrant droit à l'assurance chômage, donc notamment aux contrats courts, doit peser sur l'ensemble des acteurs et pas seulement sur certains secteurs sélectionnés. Puisque effectivement, là, si on regarde la manière dont c'est mis en place, des entreprises vertueuses, ce qu'on appelle vertueuses, c'est-à-dire embauchant moins en contrat court, mais sélectionnées parmi ceux qui sont soumis à ce système de bonus-malus, vont potentiellement payer moins de cotisations à l'assurance chômage que les secteurs qui n'ont pas été sélectionnés pour être dans ce système de bonus-malus. Ce qui, d'un point de vue incitatif, est quand même un peu particulier.
Et par ailleurs, cette taxe de 10 euros par CDD d'usage ne sera pas mise en place tout de suite.
Alors, elle a été repoussée récemment par le gouvernement. Donc, elle n'a toujours pas été mise en place. Le CDD d'usage avait déjà eu un traitement spécifique lors de l'instauration en 2013 d'une taxe sur les CDD courts. Donc, enfin, d'une taxe. C'est une augmentation des cotisations à l'assurance chômage qui avait été beaucoup plus faible pour les CDD d'usage que pour les CDD, alors que du fait de leur statut un peu spécial, et donc avec un recours illimité, sans durée, sans motif, ils sont fortement responsables de la rotation des contrats.
Alors vous dites que ces mesures sont peut-être insuffisantes, et pourtant ce que l'on constate, c'est que les entreprises sont vent debout contre ce système.
Personnellement, une fois de plus, la formation, effectivement, ça bénéficie essentiellement au cadre. Il faut essayer d'améliorer les choses pour que les gens se forment au sein de l'entreprise. Mais je ne crois pas que c'est en rendant l'emploi plus flexible.
Alors, ça n'est pas le son que l'on voulait entendre. On va entendre le chef d'entreprise, Patrice Puy-Pérouf.
Taxer les CDD courts est un surcoût supplémentaire pour les entreprises qui peut les inciter plutôt à sous-traiter, ce qui n'est jamais véritablement une bonne chose pour une entreprise, alors qu'il est tout à fait légitime de faire usage de ces contrats courts pour des missions données. L'été, on peut avoir un chauffeur poids lourd qui part en vacances et on le remplace par un contrat court de 3 semaines, par exemple, le temps de ses vacances. De toute façon, vous avez déjà une prime de précarité que vous devez lui payer à la fin du mois. Vous êtes déjà 10% plus cher qu'un contrat de travail normal. Donc, renchérir ce coût-là ne va pas dans le bon sens et n'est pas incitatif pour l'embauche. Ça serait encore un signal négatif pour le marché de l'emploi, c'est-à-dire encore une façon de dire, si vous employez, ça va vous coûter un peu plus cher.
Un système de bonus-malus qui serait désincitatif pour l'embauche, c'est ce que nous dit le chef d'entreprise Patrice Puy-Pérouf. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémence Berson?
C'est un point qui se discute, mais d'un point de vue économique, cette embauche courte, même si le remplacement est nécessaire, le but n'est vraiment pas d'arrêter les embauches. Ce qu'il faut voir, c'est juste que c'est une embauche qui aura un coût un peu plus important, et que du coup, la cotisation à l'assurance chômage est un petit peu plus importante.
Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, Sophie Robin-Olivier?
Je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours la même chose dans cette dans cette matière, il y a une recherche de compromis et on voit bien comment ça rend le droit très complexe. Parce que effectivement, il y a une réticence forte. On comprend, hein, une réticence forte des entreprises. Il y a aussi un peu un chantage à l'emploi, qui est toujours le. Alors sans qu'on sache bien, j'interrogerai volontiers l'économiste quant à moi. On ne sait pas bien mesurer, me semble-t-il, la relation entre la flexibilité et l'emploi. C'est pas direct, apparemment. C'est pas prouvé qu'il y a un lien, mais il y a toujours cette idée, en tout cas, que si on offre des flexibilités, si le coût du travail baisse, etc. Ça va favoriser l'emploi. Mmh. Et donc, toutes les mesures qui sont prises, et encore aujourd'hui, sont des mesures en demi-teinte. On donne un peu, mais on limite. Et ça fait qu'effectivement, on a un système qui est extrêmement complexe, dans lequel on a du mal à se retrouver. C'est pas très satisfaisant, ni du point de vue du droit, je crois, ni du point de vue de l'économie, me semble-t-il.
C'est un vaste sujet que vous ouvrez, effectivement, la baisse du coût du travail et son impact sur l'embauche. Clémence Berson, c'est une question extrêmement difficile à trancher.
Alors, on a quand même un impact direct entre son coût, le coût du travail et le fait d'embaucher, puisqu'effectivement, lorsqu'on a un salarié moins cher, on l'embauchera plus facilement que celui qui est un petit peu plus cher. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a déjà énormément d'exonérations au niveau des cotisations sociales, et notamment au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisations sociales. Donc, il faut voir que c'est pas le petit renchérissement, parce que la variation est minime. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 1% en plus ou en moins. Donc c'est pas non plus une énorme taxe comme
ce bonus malus était très 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 faible.
Il est faible. C'est vraiment du point de vue incitatif. Donc c'est pas évident que l'impact soit aussi fort que ce qu'on dit sur l'emploi.
Sophie Romain-Olivier.
Ceci dit, je trouve que l'aspect symbolique, ce que le gouvernement dit de l'emploi précaire, quelle que soit la mesure qui est prise au fond, c'est pas anodin. C'est quand même dire quelque chose de ce qu'on considère comme étant bon ou étant juste dans notre société actuellement. La précarité au fond, on a trouvé ce discours parfois dans certains documents de la Commission européenne, plus aujourd'hui, et c'est pas, je dirais pas que le droit européen nous dit que la flexibilité est bonne, loin s'en faut, mais à certains moments, on trouve des discours qui présentent la flexibilité, la précarité au fond, enfin, on parle pas de précarité, mais enfin, ces contrats courts comme étant une bonne chose, au fond, une bonne chose pour tout le monde, parce que c'est flexible pour l'entreprise, mais c'est aussi flexible pour le salarié, et donc au fond, ça, c'est dynamique, c'est un signe de dynamisme. Voilà, on change de contrat, ces contrats, on peut faire évoluer sa carrière, aller de job en job. C'est bien. Quand un gouvernement dit, on va, quelle que soit la charge réelle, on va limiter le recours à ces contrats, on va essayer de les éviter, de faire prendre en charge par les entreprises le coût que ça représente pour la société dans son ensemble, je trouve que ça dit quelque chose d'une politique, d'une orientation, d'un choix qui est fait par le gouvernement et une tentative d'équilibre peut-être.
Clémence Berson.
Après, je pense qu'il faut le voir pas forcément comme quelque chose de juste ou injuste. Je pense qu'il faut réussir à le voir d'un point de vue beaucoup plus macroéconomique, donc avec plus de recul dans le sens où le principe même, alors je parle pas forcément de cette réforme qui a été faite en France, mais par exemple de ce qui est fait aux États-Unis, c'est constater que le chômage n'est pas forcément lié qu'aux salariés et qu'elle vient aussi de cette relation de travail qui s'est séparée.
Donc c'est rationnel économiquement, c'est ce que vous voulez dire, de prendre ce genre de décision.
Alors rationnel, en tout cas, ça permet d'internaliser en partie le coût pour la société de cette rupture de contrat de travail. Donc c'est pas faut pas forcément le voir comme une punition, c'est une conséquence qu'on aimerait faire en sorte que l'entreprise internalise. Parce que l'entreprise sait très bien faire internaliser les coûts et faire ses calculs à partir de l'état des faits.
Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'autre problème des contrats temporaires, c'est qu'ils ne permettent pas aux salariés de bénéficier de formation de la même façon que dans un contrat à durée indéterminée. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire entrer les travailleurs dans un cercle vicieux, Sophie Romain-Olivier.
Oui, c'est ce qu'on constate quand on regarde les conséquences de ces emplois dits précaires, de ces différents, que globalement, effectivement, il y a une moindre formation, donc un accès moindre à la formation professionnelle.
Et qui dit moindre formation, dit enchaînement ensuite potentiellement de CDD également.
Oui, ça veut dire ça. C'est aussi des salariés qui sont plus susceptibles d'être victimes d'accidents du travail, parce que parfois le défaut de formation entraîne des risques plus grands. C'est donc des salariés qui ont plus de maladies professionnelles. Donc c'est au fond un enchaînement d'éléments. Alors c'est évident, quand on dit ça, on a une image très globale. Hein. C'est et donc un peu fausse, parce que c'est une vision très générale des choses, mais quand même, c'est les constats qui ont été faits.
On peut se demander si c'est à la puissance publique de prendre en charge le coût de ces formations, et aussi si elle le peut sur un plan financier, Clémence Berson.
Alors, la formation est quand même assez largement financée par les entreprises, même si elle a été réformée récemment pour changer la gouvernance, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques envers la gouvernance de la formation professionnelle. Il y a quand même une très large part qui est faite par les entreprises.
Mais il y a quand même Pôle emploi qui va prendre en charge un certain nombre de formations pour des gens qui sont au chômage parce qu'ils ont eu des contrats courts. À ce propos, je voudrais vous faire entendre l'économiste Danny Lang, qui est maître de conférence à Paris 13.
Personnellement, une fois de plus, la formation, effectivement, ça bénéficie essentiellement aux cadres. Il faut essayer d'améliorer les choses pour que les gens se forment au sein de l'entreprise. Mais je ne crois pas que c'est en rendant l'emploi plus flexible, c'est-à-dire en permettant à l'employeur de se débarrasser plus facilement de ses salariés, qu'on va encourager ses salariés à essayer de monter en gamme dans leur propre formation. Et puis les gens, ne jetons pas la pierre aux gens à Pôle emploi, ils ont en portefeuille 300, parfois 350 personnes, alors qu'ils devaient en avoir 60 à 80. Donc forcément, si on décide de mettre le paquet sur la formation et sur Pôle emploi, à un moment, il faudra aussi qu'on donne les moyens et qu'on recrute du monde dans le secteur.
Voilà, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il est particulièrement difficile d'obtenir une formation à Pôle emploi, et plus encore quand on enchaîne les contrats temporaires. Et ça, c'est peut-être en grande partie à cause du manque de moyens aussi, Clémence Berson.
Alors, le sujet de la formation est un problème très complexe. Et effectivement, on a le constat qu'il bénéficie pas assez en France aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc au sein des entreprises, exactement ce qui a été dit, ça a tendance à bénéficier aux personnes déjà formées et moins souvent aux personnes qui ont eu une formation assez faible initialement. Et après, une fois au chômage, il est assez difficile de faire des formations longues et qualifiantes, parce que finalement c'est celles-là qui vont changer les choses et c'est celles-là qui vont aider au retour à l'emploi, parce que c'est coûteux, il faut que la personne aille jusqu'au bout de la formation et c'est pas forcément facile à mettre en place, effectivement.
Et puis vous commenciez à le dire, Sophie Romain-Olivier, mais effectivement il faut peut-être insister là-dessus, sur le fait que ce qu'on appelle les risques psychosociaux sont plus importants chez les travailleurs en CDD ou en intérim, peut-être notamment chez ceux qui espèrent obtenir un CDI et qui du coup vont travailler de façon particulièrement intense en espérant que ça donnera un résultat.
Oui, certainement. Alors je ne sais pas démêler les facteurs qui font qu'on constate une vulnérabilité plus grande à ces risques psychosociaux des salariés qui ont des contrats précaires, mais évidemment il y a une pression accrue pour essayer, on entendait tout à l'heure, pour essayer d'obtenir un contrat plus durable. Puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas forcément de période de repos, qui sont quand même les périodes normalement protégées de toute activité, c'est surtout le langage européen, hein, que les congés, notamment les congés annuels, sont vraiment des périodes sanctuarisées dans lesquelles il faut permettre de restaurer complètement son énergie, en fait, être à l'abri de toute contrainte de travail. Et ça, quand on enchaîne des contrats précaires, c'est pas possible d'avoir ces périodes complètement dégagées, en fait, de toute préoccupation liée au travail. Après, il y a des tas de phénomènes qui concernent à la fois les salariés en CDI et les salariés en CDD. Les risques psychosociaux, ça s'est généralisé. Le problème de la santé mentale des salariés, c'est plus global, c'est pas ça. Mais bon, certainement, comme pour les autres risques, une vulnérabilité plus grande des plus précaires.
On disait que le gouvernement cherchait à s'attaquer aux abus du recours au CDDU. Et en même temps, dans la fonction publique, il y a la loi du 6 août dernier qui facilite l'embauche de contractuels et qui précise bien que ce sont des contrats qui ne peuvent pas être transformés en CDI, que ces travailleurs ne pourront pas être titularisés. Est-ce qu'on n'a pas là une flagrante contradiction, Clémence Berson ?
Elle n'est pas récente. Le droit administratif, donc qui ne répond pas du droit du travail, est déjà particulier depuis des années et des années. Ils font toujours des contrats à durée déterminée de 3 ans, alors que dans le privé, on ne peut pas dépasser 18 mois. Et un renouvellement jusqu'à 6 ans. Avec la loi Sapin, il y avait eu la mise en place d'une obligation de transformer les CDD en CDI passé les 6 ans. Mais quand on compare à ce qui se passe dans le droit privé, ça, ça n'a rien à voir.
C'est la dualité.
Sophie Robin-Olivier.
Non, mais là, c'est la dualité à l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les fonctionnaires et de l'autre les contrats, voilà, qui sont des contrats précaires mais longs. Et c'est un système qui fonctionne comme ça. Alors évidemment, ça incite à dire il faudrait peut-être que tout le monde ait des contrats qui soient raisonnables. Mais ça remettrait en cause le statut de la fonction publique, ce qui est quand même évidemment une source de... Enfin, on n'est pas forcément favorable à cette évolution-là, évidemment.
Il y a un dernier point que je voudrais souligner avec vous, aborder, c'est la question de la réforme de l'assurance chômage, qui est en application depuis quelques semaines. Clémence Berson, est-ce que cette réforme a un impact important davantage sur les travailleurs précaires par rapport aux travailleurs plus stables? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette réforme?
Ouais, c'est un peu une question piège.
C'est pour finir, toujours, une question piège.
Est-ce qu'il y a une différenciation selon le type de contrat?
Ou est-ce que les deux sont impactés négativement par cette réforme?
Alors, il y a eu un point où ils ont essayé de compenser. En fait, jusqu'à présent, pour le calcul des allocations chômage, on pouvait très bien travailler 15 jours, avoir un contrat de 15 jours, être indemnisé 15 jours, puis retravailler 15 jours, etc., pendant très longtemps, et en fait, juste ne pas utiliser ses droits au chômage par là, parce qu'on rechargeait à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui avait été pointé du doigt par certains économistes, et donc qui a normalement été... Enfin, qui va être plus difficile actuellement, puisqu'on va prendre la période du mois pour calculer les revenus du chômeur. Donc là,
et ça
forcément,
ça fragilise
forcément
sa situation.
Alors fragiliser ou ça va pousser les entreprises à embaucher ces gens-là en CDI. Ça peut être aussi ça.
Ça dépend si on est optimiste ou non.
Voilà, mais ça, c'est l'avenir nous le dira.
Sophie Robin-Olivier.
Oui, moi, ce que j'ai vu là, c'est qu'on fait le pari, le gouvernement en tout cas fait le pari que cette mesure-là, qui va rendre le rechargement plus difficile, va inciter à maintenir des gens plus longtemps dans l'emploi ou en tout cas pas favoriser le fait d'enchaîner des périodes courtes de travail qui permettaient quand même d'être garanties entre deux par l'indemnisation du chômage.
Alors on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur ces contrats courts, sur leurs conséquences, sur les salariés et peut-être aussi sur les retraites, puisque voilà, on est dans ce mouvement social important contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, Clémence Berson?
Alors, la réforme n'est pas faite et pas forcément très claire jusqu'à présent. Le seul point qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, on va pouvoir changer d'emploi plus facilement. Enfin, disons que les droits à la retraite vont nous suivre plus facilement que ce que c'était par le passé avec les différents régimes. Après, il faut aller jusqu'au bout et avoir le texte pour voir vraiment dans quel sens ça va aider dans un sens ou dans l'autre.
Sophie Romain-Olivier.
Oui, moi je pense que l'idée c'était quand même d'être plutôt de mieux protéger les plus précaires, puisque en prenant en compte chaque période de travail et non pas des trimestres entiers, c'est plus favorable quand même aux plus précaires. Donc je crois que la réforme elle va dans ce sens-là. Et évidemment, il y a plein d'autres aspects. La source de la contestation n'est pas la protection des plus précaires.
C'est aussi la question de la valeur du point, notamment, voilà, qui reste effectivement très très mystérieuse et qui pose un certain nombre de questions. Ce sera en tout cas le mot de la fin. Un grand merci à toutes les deux. Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Détente sur le front du commerce international avec cet accord commercial entre les États-Unis et la Chine annoncé vendredi dernier. Un accord très attendu. Pour quel bénéfice?
En tout cas, c'est peu de dire qu'il était attendu depuis les 2 ans que dure la guerre douanière sino-américaine. Plusieurs fois annoncé et reporté, cet accord a finalement été officiellement conclu le jour même où les États-Unis devaient imposer de nouvelles taxes. Alors du peu que l'on sait, le grand principe semble clair, hein, c'est une baisse d'intensité justement de ces taxes américaines, annulation de celle de vendredi sur 160 milliards d'importations chinoises, diminution de moitié sur les précédentes contre une hausse significative des importations chinoises de produits agricoles américains. On parle de 40 à 50 milliards de dollars d'achats annuels. D'un point de vue tactique, l'affaire semble donc bonne pour les deux parties, avec une économie chinoise au ralenti et un Donald Trump en campagne. Mais un deuxième accord doit intervenir quand même pour que la Chine se plie aux exigences de concurrence américaine. Et là, c'est peut-être l'essentiel. Écoutez, Sébastien Jean, il est le directeur du CEPI.
on fait un petit pas en arrière de part et d'autre. Les États-Unis baissent certaines des sanctions qu'ils avaient prises. Les Chinois prennent des engagements d'achat de produits américains, bon, qui vont peut-être un peu au-delà de ce qu'ils auraient fait en temps normal sur certains produits, mais enfin, rien de nature à changer structurellement la nature des relations entre les deux pays. Et effectivement, le deuxième type d'engagement est un engagement de réforme de l'économie chinoise, relative à la propriété intellectuelle, au transfert de technologie, au taux de change, même à la gestion du taux de change de la monnaie, voire à l'agriculture et aux services financiers. Là-dessus, on sait très peu de choses. Il semble que, par exemple, il n'y en a aucun vraiment qui soit des engagements relatifs aux politiques industrielles chinoises. Et surtout, on reste très sceptique, a priori, en tout cas moi je reste très sceptique, sur le caractère substantiel des engagements chinois et sur le fait qu'ils vont véritablement apporter un changement dans la durée, parce que ce type d'engagement est très difficile à contrôler et à faire respecter ensuite. Et il faut se demander aujourd'hui, en tout cas si on en reste là, qu'est-ce que Donald Trump a obtenu avec cette guerre commerciale. Finalement, il a obtenu de revenir un petit peu en arrière dans les conséquences néfastes qu'avait créé sa politique initialement.
Il n'empêche que la politique commerciale américaine semble se radoucir. Le nouvel accord commercial nord-américain est aussi en cours de ratification.
Oui, c'est l'accord commercial entre États-Unis et ses deux voisins, Canada et Mexique. Là aussi, les négociations avaient été après longues avec des menaces de taxes. Finalement, après le Mexique, le Congrès américain est le dernier à le ratifier en ce moment. Les marchés, en tout cas, qui craignaient de nouvelles taxes vendredi et un sérieux risque pour la croissance mondiale en 2020, peuvent souffler. Les bourses européennes et américaines ont toutes terminé en hausse hier.
On passe aux brèves, à l'approche d'une deuxième semaine de grève contre la réforme des retraites. Le Premier ministre recevra demain les syndicats et deux questions se posent.
Oui, qui succédera au haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, perçu comme dernière courroie de transmission entre les syndicats et le gouvernement, et sur quoi pourra porter l'éventuelle négociation en supposant que la ligne rouge de l'âge pivot soit retirée. Le gouvernement voudrait étendre le compte pénibilité qui donne des droits supplémentaires pour qu'il puisse en sorte absorber les dispositions actuelles des régimes spéciaux. Ce même dispositif, remarque l'AFP, que le gouvernement s'était empressé de vider de sa substance, écrit le journaliste, dès 2017. Rien n'est joué donc.
Pendant ce temps, la ministre du Travail communique sur la hausse du SMIC pour l'année prochaine.
1,2% d'augmentation, soit 15 euros par mois, précise Muriel Pénicaud, qui détaille cette hausse automatique du salaire minimum dans le Parisien. 0,7% proviennent de l'inflation, 0,5% de la hausse de salaire des ouvriers et employés sur lequel il est indexé. Détaillé donc et surtout commenté sur ce surplus si ordinaire de redistribution de revenus, tellement utile aux femmes, surtout seules avec enfants. Suivez mon regard, précisément celle citée par Édouard Philippe comme principale bénéficiaire de la réforme des retraites.
Et pour finir, l'Union européenne met ses investissements au vert.
Oui, le Parlement européen et les États viennent enfin de trouver un consensus sur la classification des investissements dits verts, des activités purement vertes premièrement, ensuite des activités de transition comme les meilleures pratiques dans l'activité de l'acier et des activités qu'ils appellent facilitatrices, par exemple les éoliennes. Tout le débat, en fait, a consisté à reporter à dans 2 ans la classification trop restrictive du nucléaire et du gaz.
Merci Xavier, à demain. You can take your gold dress off if you feel like I'm the one for you. I need somebody to feel me. I need somebody to feel me. If you feel like it's the moment to, I need somebody to feel me. I need somebody. Let me take the right bite of the sun. We could sing the same words if you want. But show me, lead me to your love. Lead me to your love. On se quitte avec Gold Dress de Yellow Straps. Merci beaucoup Clémence Berson, juriste à l'IRIDIES. Clémence Berson, chercheuse au LIEP Sciences Po. Et Sophie Robin, Olivier, juriste à l'IRIDIES, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Sophie Robin Olivier, Les contrats de travail flexibles, une comparaison internationale parue aux presses de Sciences Po. Il y a quelques années, on mettra toutes les références sur le site. Demain, qui veut faire travailler les seniors? Peut-on vraiment travailler plus longtemps? Une émission qui s'inscrit dans le cadre de la journée spéciale que France Culture consacre à la mobilisation contre la réforme des retraites, journée intitulée « En raison d'un mouvement social ».